pouvez-vous débarbouiller de printemps? Alors là, c'est formidable. Profitez et vive l'eau indispensable qui est tombée. Bonjour à tous. Deux sujets aujourd'hui, la rose évoquée par ce raconteur né qui était Jean-Marie Pelt et une vague de printemps dans le Marais Vernier. Entrez dans le Marais Vernier chez vous. Bonjour Thierry Lecomte.
Oui, bonjour Denis.
Alors, on va imaginer la Seine il y a quelques milliers d'années. Elle était où? Qu'est-ce qu'elle faisait?
Alors la Seine, il y a quelques milliers d'années, elle était sous nos pieds en fait, parce que c'est elle qui a creusé cet amphithéâtre que constitue le Marais Vernier sur 4500 hectares. Et puis au fil de ces divagations de méandres, eh bien, elle a choisi un autre parcours et nous a laissé en fait une place disponible pour l'établissement d'une des plus grandes tourbières françaises.
Alors une tourbière d'ailleurs qui s'en est pas trop mal sortie parce qu'elle n'a pas été trop exploitée.
Oui, c'est une tourbière qui est très difficile d'accès, si bien que les trois tentatives historiques qu'il y a eu se sont terminées assez rapidement par des échecs et du coup elle est restée presque intacte sans avoir subi donc ces déprédations de l'exploitation de la tourbe pour le chauffage ou pour l'horticulture.
Le Marais Vernier, ça veut dire le Verne en vieux français, c'est-à-dire l'Aulne. Face à nous, en rive droite, vous avez de l'industrie lourde, et ici, dans l'Eure, vous avez ce marais qui est donc aussi beau que fragile. Et alors, vraiment, vue d'oiseau, vous regardez, et vous avez une demi-roue très belle, avec des lanières de terrain, qu'on appelle des courtilles. Alors, ce sont des jardins à peu près d'un kilomètre de long, sur quelques mètres de large. C'est le royaume des arbres têtards, hein, comme le frêne. Et notre guide, c'est Thierry Lecomte, qui est docteur en biologie, qui a créé la réserve naturelle des courtilles de Bouclon. Et pour entrer dans le marais, deux outils, les bottes, les jumelles, accessoirement le magnéto. Et soyez serein, vous ne serez pas mordu par une plante carnivore. Bon, alors je peux vous assurer qu'il n'est pas asséché, hein, parce qu'on gadouille gentiment dans cette terre sombre. Bah, évidemment, parce que c'est quand même moitié tourbe. Moitié quoi, glaise aussi?
Alors là, on est sur la partie de ce qu'on appelle les colluvions, c'est-à-dire ce qui descend en sorte de l'ancienne falaise creusée par la Seine. Donc on a un mélange en fait de terre entre la tourbe qui est un petit peu plus loin et puis ces colluvions donc qui se sont rapprochées donc de la tourbière. Mais plus on va avancer, plus on va être sur de la tourbe pure et on en aura à peu près 8 mètres sous les pieds.
Ouais, ok. On est à quelle merveilleuse altitude ici, 1 mètre, 2
mètres?
Alors
là, on est à peu près à 2 mètres, 2 mètres 30 au-dessus du niveau de la mer. Ouais. C'est-à-dire qu'à marée haute, en fait, le niveau de la Seine est un peu plus haut que ce secteur du Marais Vernier.
Alors, je vais me tourner vers Anne-Sophie de Fonde, parce que vous êtes, vous, un peu une Madame Marais Vernier pour la communauté de communes, hein, aujourd'hui, qui regroupe plus de 50 000 habitants. Alors vous êtes toute jeune, hein, vous avez 25 ans. Et votre travail ici, qu'est-ce que c'est?
Alors moi j'ai en charge en fait de mettre en valeur en fait le patrimoine du Marais Vernier et puis un travail aussi de reconnexion en fait entre l'habitant et son environnement. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que on était plutôt sur un territoire dortoir. Donc les gens ne connaissent même pas...
Pas que pour les cigognes.
Voilà, exactement. Ouais,
c'est ça.
Les gens ne connaissent plus, en fait, le territoire dans lequel ils vivent. Ouais. Et donc c'est, en fait, voilà, faire en sorte qu'ils puissent se reconnecter. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des habitants vont travailler sur Le Havre,
Rouen, etc. Hein.
Voilà, Pont-Audemer et donc, quand ils vont chercher à se divertir, ils vont partir sur Rouen, sur Honfleur, sur... Alors qu'en fait, ils ont un super terrain de jeu de 4500 hectares sous les pieds, quoi.
Alors Thierry, là c'est bien parce qu'on est accueilli par les cigognes. Hein. L'Alsace, certes, mais on va quand même rappeler que la Normandie et la Charente aussi, ce sont des grands pourvoyeurs de cigognes. Donc là, on a une belle plateforme. Hein.
Oui, alors les cigognes sont revenues dans le Marais en 1993. Hein, avec le concours du parc naturel régional, on avait pu mettre en place des nids de cigognes, des plateformes pour les inciter, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ce marais est peuplé d'aulnes. Les aulnes sont des arbres de petite taille, et c'est très difficile pour une cigogne qui a 2 mètres d'envergure de s'installer sur des arbres qui sont aussi mal commodes. On observait les passages réguliers de cigognes, mais elles n'avaient pas d'arbres pour nicher. Alors on les a un tout petit peu aidées en leur proposant ces plateformes qu'elles ont adoptées très rapidement, puisque moins d'une semaine après la pose des premières plateformes, eh bien, les cigognes étaient là pour nicher. Aujourd'hui, on a une bonne vingtaine de couples qui nichent dans ce marais vernier. Alors on a une cigogne qui est sur son nid, là, juste à côté, là, qui est en train de nous regarder. Elle espère ne pas avoir été repérée, mais là, je crois qu'on l'a quand même.
Mais tu rêves, ma fille. Oui, on est à quoi? On est à 20 mètres.
Donc là, elle est déjà en train de couver.
Ah là, elle couve, ça y est. Donc elle va couver à peu près une quarantaine de jours, puis après, le petit, quand il sort, il fait...
Ben, le petit, il ne va pas peser lourd, il va peser à peu près 70 grammes, ouais. Et il va devoir peser pas loin de 4 kilos un mois et demi après, quand il va devoir s'envoler pour partir en migration. Donc c'est là qu'interviennent les Highlands, parce qu'en fait, le pâturage va permettre d'une part aux cigognes d'avoir un accès au sol, parce que si c'était enfriché, elles ne pourraient pas du tout trouver leur nourriture, et en plus, le pâturage avec des bovins, surtout ces bovins qui ne sont pas traités au vermifuge, ça va permettre de produire énormément de vers de terre dans le sol, et le vers de terre est le carburant de démarrage des cigognaux. Bon, après, il y aura d'autres types de proies, mais c'est comme ça qu'avec cette nourriture très riche en protéines, donc les cigognaux vont pouvoir avoir ce qu'on appelle le GMQ, c'est-à-dire le gain moyen quotidien impressionnant qui leur permettra d'atteindre leur poids de forme pour partir en migration. Donc on a bien un lien en fait entre les vaches qui sont sous le nid et les cigognes qui sont dessus. Tout ça se tient, et c'est pour ça que les herbivores en général, surtout les grands herbivores comme les chevaux, les bovins, on appelle ça des espèces clés de voûte de l'écosystème, un petit peu comme dans une voûte romane, si on enlève la pierre qui sert de clé de voûte, eh bien la voûte s'effondre. Eh bien, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que le départ de l'élevage de nombreuses régions françaises de montagnes, de zones humides, de coteaux, de zones sèches, de landes, de garrigues, etc., c'est une véritable catastrophe écologique. Il faut vraiment soutenir cet élevage extensif dans les terrains difficiles.
Bah voilà une cigogne qui s'envole, là, qui va chasser, qui va chercher ce qu'il faut pour nourrir maman ou papa au nid.
Donc qu'est-ce qu'elle va miloter, elle, ça va prendre ?
Une grenouille, ça peut être un petit mammifère, ça peut être une limace, ça peut être une sangsue. Elles aiment bien les sangsues aussi, il y a pas mal de sangsues dans les mains, c'est la sangsue médicinale.
Alors Thierry, il y a aussi donc le Thierry Lecomte, on va dire, un peu visionnaire, c'est-à-dire que dans les années 80, vous êtes dit, bon, pour pas laisser crever ce marais, il faut aussi un petit peu l'aider et aider la nature avec la nature. Et bah là, on voit sous les yeux donc des vaches Highland qui sont très belles, hein, extrêmement bikiniques, sont parfaites, et elles sont surtout complètement adaptées à ce territoire parce qu'elles ont une ossature qui est plus légère, on va dire, que des charolaises, pour faire simple. Donc elles s'enfoncent beaucoup moins.
Le problème, c'est que dans les milieux naturels, on oublie que les prairies sont d'authentiques milieux naturels. À l'origine, broutées par des herbivores sauvages qui étaient les aurochs, les bisons, les tarpans, les élans, etc. Et c'est l'agriculture, à travers l'élevage, qui a pu maintenir ces milieux naturels. Mais aujourd'hui, pour des raisons économiques, beaucoup de zones sont à l'abandon et vont s'enfricher, se boiser, et on perd des pans de biodiversité très importants attachés au milieu ouvert. Et donc le fait de remettre des herbivores très rustiques permet de renouer en fait avec ce mode de fonctionnement naturel des milieux ouverts, et d'avoir donc ces brouteurs qui vont faire le job comme faisaient les aurochs il y a quelques centaines de milliers d'années.
Alors on a un beau mélange là, on a à la fois donc les vaches et puis les chevaux camarguais.
Oui, parce qu'en fait ces deux espèces sont complémentaires. Nous avons pendant 10 ans étudié ce que faisaient les bovins d'un côté et les chevaux de l'autre pour mieux comprendre en fait qui faisait quoi, et on a bien compris en fait qu'il y avait une certaine complémentarité. Vous avez par exemple une plante qu'on appelle le chanvre d'eau ou le lycope d'Europe, et bien cette plante là le cheval il déteste, mais le bovin le mange très facilement, et donc pour éviter un envahissement, je dirais, par cette plante, si on n'a que des chevaux, et bien le fait de mettre des bovins avec rétablit en fait un équilibre prairial.
Hop. Alors là, on passe d'un lieu à un autre, on va dire d'un champ à un autre.
On est en train de s'enliser merveilleusement.
On vit la zone humide.
On vit la zone humide, oui. Comment faire? Ah oui, d'accord. Coincé là.
Alors attends. Voilà.
On va y arriver.
Comme dans les sables mouvants de la baignoire Saint-Michel.
Ah bah c'est ça. Hop.
On va marcher sur les touffes d'herbe.
Laurence d'Arabie, mais sans le sable. C'est pareil. Alors, puisque nous fêtons l'arrivée du printemps ici dans ce marais vernier, comment il éclate ici?
Le printemps dans un marais, c'est un camaïeu de couleurs au niveau de la végétation. Elle démarre un tout petit peu tard parce que l'eau est toujours un peu froide et va inhiber le démarrage de la végétation.
Ouais.
Mais d'après, dès que le soleil chauffe un tout petit peu, ça va complètement exploser. Et on voit toutes ces rangées d'iris avec des fleurs d'un jaune éclatant.
Oh,
donc qui sont un petit peu la signature, je dirais, de ce type de milieu à partir du mois d'avril-mai.
Alors Thierry, en fait, d'une journée à l'autre, on voit des choses, en ce moment, ça galope quand même aussi.
Oui, oui, tout à fait.
Il y a à la fois une lenteur et puis aussi une cavalcade. Quoi,
oui, parce qu'on va avoir maintenant toutes les espèces qui ont passé l'hiver en Afrique ou en Espagne qui vont débouler. Là, les premières hirondelles sont arrivées. Le coucou est dans les starting blocks. Après, ça va être les martinets. Il va y avoir le faucon ombreau, la bondrée à piveur. Enfin, plein d'oiseaux qui vont se succéder et qui vont peupler. Et depuis quelques années, on a même ce qu'on appelle le circaète. Le circaète, c'est un petit aigle.
Jean Leblanc.
Le Jean Leblanc, absolument. Donc, il s'est spécialisé dans la consommation des serpents. Et il a trouvé le marais vernier assez sympa pour venir s'y établir, et tous les ans maintenant ce petit aigle donc vient prédater les couleuvres pas assez rapides du secteur.
Oui. Et alors peu de moustiques quand même ici.
Alors peu de moustiques parce que nous avons la chance dans ce milieu très très complexe d'avoir encore des belles populations de chauves-souris, des belles populations de libellules, des belles populations d'amphibiens, des belles populations de fauvettes, et donc
tous ces cigogne, wow, rasmotte.
Oui. Eh bien, elles font ça pendant toute la belle saison. On va les avoir jusqu'au mois de septembre. Hein. Les jeunes vont partir beaucoup plus tôt en migration, mais les parents sont trop fatigués par l'élevage des jeunes. Ils ont perdu des plumes, ils ont beaucoup maigri. Ils seraient plus tellement d'attaque pour partir en migration. Alors, ils vont profiter que les gamins sont partis pour se refaire une petite santé et partir à leur tour en migration, mais quelques semaines après donc le départ des jeunes.
Et puis ça sent bon, ça sent bon.
Alors le marais, il y a comme quelques espèces qui sont avec des fragrances assez fortes, notamment les menthes, hein, la menthe aquatique, mais on a aussi le piment royal, enfin on a plusieurs plantes comme ça qui donnent aussi une odeur particulière, et la tourbe elle-même a également une odeur qui lui est propre.
Alors elle sent pas le whisky ici, mais...
Alors ça sent pas dans le whisky, hélas, mais en fait, le marais vernier est bordé de coteaux, souvent plantés de vergers, de pommiers, et là ce serait plutôt la note calvados que la note whisky.
Je comprends, oui. Allez, vive la pomme. Bon, petite grenouille.
Tiens.
Oh, bonne petite grenouille.
Oui, oui, oui.
Hop, Anne-Sophie, vous attrapez.
Voilà.
Cette grenouille.
On se met bien les mains.
Oui, on la bloque gentiment.
On la bloque.
Et on va pas te manger tout de suite, t'inquiète pas.
On attrape la patte et on regarde si elle dépasse la tête. Et si c'est le cas, ce serait une petite grenouille agile. Et c'est le cas. Bon, elle est pas très contente, mais elle est repartie.
Oui. Pas besoin d'autre chose, là, Anne-Sophie.
Ah non, on est bien. Il change de couleur. Souvent, on me posait la question, quand est-ce qu'il faut venir dans le marais? Moi, je dis tout le temps. Parce qu'il change tout le temps de couleur en fonction des saisons. Il est toujours beau.
Thierry, là, nous sommes devant un tableau. Le tableau est à nos pieds.
Oui, alors là, c'est un tableau. On n'a que du vert. Mais on a au moins 10 ou 15 sortes de verts. On a du vert mousse, on a du vert bronze, on a du vert bleuté, on a du vert glauque, on a du vert jaunâtre, on a toutes les nuances de vert, là, sur 1 mètre carré. Et c'est ça aussi, la diversité, la biodiversité des espèces. C'est aussi une diversité pour l'œil, diversité du paysage.
Vive le printemps et vive les 50 nuances de vert.
Alors Victor Hugo disait « le mois de mai sans la France n'est pas le mois de mai ». Moi, je considère que le mois d'avril sans le marais vernier, ce n'est pas le mois d'avril.
«
Merci Thierry Lecomte et Anne-Sophie Defonte. Dans quelques instants, ce sera l'histoire de la rose avec Jean-Marie Pelt.
Apaiser rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Qu'on veut dans la vie. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Eh ben ouais, c'est pas mal et ça touche à l'essentiel. Louis Chédide sur France Inter, CO2 mon amour. Qu'aurait pensé l'ami Jean-Marie Pelt de ce monde? Ben, il aurait dit loisir, plaisir, consommation, hubris, destruction des habitats qui font passer une bestiole placide pour le pangolin émissaire. Il nous aurait dit que tout ceci n'est en tout cas pas synonyme d'avenir et de bien commun. Et puis, il se serait tourné vers le beau. Et comme elles fleurissent partout, eh bien, il nous raconte la rose et son ancêtre.
Bonjour Denis, bonjour à tous. C'est les glandiers de nos buissons et de nos haies, bien que ça ne soit pas le véritable ancêtre de la rose.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Parce qu'il y a une bonne centaine d'églantiers sauvages, et le nôtre n'est pas un de ceux dont les roses sont descendues. Alors, il faut savoir d'abord que ces églantiers existaient déjà il y a 50 millions d'années. Ces roses ont été énormément travaillées, sélectionnées, hybridées, modifiées. Les églantiers n'ont que 5 pétales. Les roses anciennes ont 5 pétales aussi. Mais beaucoup de roses ont évidemment beaucoup, beaucoup de pétales. Alors, comment on fait pour passer d'une rose qui a 5 pétales à une rose qui a beaucoup de pétales? Alors, ceci, c'est le fruit de la nature qui est capable de transformer des étamines en pétales. C'est-à-dire que plus il y a de pétales, moins il y a d'étamines. Et ce travail peut être accéléré par des produits chimiques, peut se faire aussi spontanément si on sélectionne des fleurs qui ont su transformer leurs étamines spontanément en pétales. Donc c'est une technique d'horticulture relativement banale. Ça fait partie de l'art de l'horticulteur.
Rappelez-nous ce que sont les étamines.
Ce sont les organes mâles qui produisent le pollen, qui contient les spermatozoïdes et qui féconderont l'organe femelle qui est le pistil et qui contient les ovules.
Voilà.
Voilà. ça marche comme ailleurs.
Quand on parle de la reine des fleurs, c'est pas du tout usurpé, c'était d'abord celle qui est préférée dans le monde, enfin je veux dire, on en voit à peu près sous toutes, enfin pas dire sous toutes les latitudes, parce que ça m'étonnerait qu'en Sibérie on le trouve facilement, mais on la voit beaucoup quoi.
Oui, on en est actuellement à quelque chose comme 20 à 30 000 variétés de roses.
Alors Jean-Marie, maintenant quand on rentre dans les histoires de roses, dans les mythes, il y a pas mal de choses à raconter.
Pour les Grecs, la rose était la fille d'Adonis, c'est un adolescent très beau, que Vénus avait pris sous sa garde, mais l'avait mis en nourrice chez une autre déesse qui était Perséphone. Perséphone, c'est la déesse des enfers. Quand on est chez Perséphone, on vit sous terre. Le jeune Adonis avait envie de sortir, mais Perséphone a envie de le garder près d'elle et a rompu le contrat. Moitié-moitié. Alors, on en a décidé que les dieux allaient trancher.
Donc, ils ont arbitré.
Ils ont tranché, ils ont arbitré. Et on a dit, voilà, Adonis, un tiers avec Vénus, un tiers avec Perséphone, le dernier tiers, il fait ce qu'il veut. Pendant qu'il était avec Vénus, le malheureux a eu un accident de parcours en faisant la course à un sanglier. Il l'a blessée, Vénus a accouru, elle a été très vite, elle s'est empêtrée dans un buisson de roses qui avait des épines, elle s'est piquée, le sang a coulé sur les roses qui étaient jusque-là que blanches et qui de la secousse sont devenues roses. Et c'est comme ça que la rose est devenue rose, ou rouge d'ailleurs, c'est l'origine de la couleur de la rose.
Quel a été le rôle des Romains dans la culture de la rose ?
Et les Romains avaient l'habitude de faire venir des roses d'Égypte, de cette région d'Égypte qui s'appelle le Fayoum, qui est un peu humide et où les roses poussaient très bien. Ils les mettaient dans des bateaux, ils les cueillaient pas encore complètement épanouies, seulement en boutons. Ça mettait une semaine pour la traverser. Et quand elles arrivaient, elles étaient très appréciées comme une fleur superbe, jusqu'au jour où les Romains se sont dit, voilà, cultiver nous-mêmes. Et alors, un des empereurs romains qui était entiché de la rose, c'était un extraordinaire personnage qui s'appelait Héliogabal, qui a régné sur Rome entre 218 et 222. 4 ans, c'était court, c'était un petit règne. Il est vrai qu'il était timbré, il se promenait tout nu, il mettait des femmes nues pour tirer ses chars. Il a cultivé des roses dans la baie de Naples. Et alors, dans cette baie de Naples, il a fait arracher les vignes. Et on l'a reproché beaucoup de faire partir les vignes et de mettre les roses à la place. Alors, il a succombé à ses pressions, il a laissé quelques vignes et il a inventé le vin rosé. C'est comme ça, paraît-il, que le vin est devenu rosé par le contact avec les roses.
Lorsqu'on parle de la rose de Saint-Jean ou la rose de Damas, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, ce sont les roses qui sont venues étape par étape. Elles sont venues, évidemment, nombreuses après les croisades. Oui. Elles se sont réparties notamment en Champagne, elles se sont réparties ensuite aussi en Grande-Bretagne. Il y a eu des roses qui étaient emblématiques de grandes familles anglaises. Quand il y a eu de la bagarre entre les Lancaster et les Tudor, il y a eu deux roses qui se sont opposées. On a dit c'est la guerre des deux roses. Mmh. Donc la rose a un rôle très, très important dans l'histoire de la royauté britannique.
Alors, cher monsieur, vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde.
Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une.
On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête.
Et quand on parle alors de rosaire ou bien de rosace, lorsque l'on rentre dans une basilique, on peut une cathédrale, on peut s'en rendre compte.
Oui, alors il y a eu évidemment autour de la rose toute une symbolique d'abord païenne, parce que la rose a été considérée comme un symbole d'érotisme. Et puis, comme tous ces symboles, ils ont été peu à peu christianisés. Et alors la rose est devenue une plante de la Vierge Marie. D'ailleurs, à Lourdes, la Vierge Marie est apparue avec deux roses sur ses pieds, à côté d'un églantier, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, dans la grotte, est toujours là et que l'on voit très aisément. Le rosaire, ça a été l'idée d'envoyer dans la prière à la Vierge 50 roses, c'est-à-dire 50 « Je vous salue, Marie ».
D'accord.
Voilà. Et puis, il y a aussi les rosaces, qui sont en forme de rose. Et puis, il y a aussi les rosaires qui sont des dames de prière. Donc, le mot rose a été très présent.
C'est une plante qui est quand même assez résistante, la rose.
C'est une plante qui peut être très résistante. C'est même probablement la seule plante qui est capable, en très bonne santé, de fleurir sur la bande centrale d'une autoroute.
Alors justement, prenons l'autoroute, allons en direction de Provins, et là on connaît la rose de Provins, donc ça vient des comtes de Champagne, c'était Thibaut IV, je crois.
Absolument, c'est ce qu'on appelle la Galique, c'est ce qu'on appelle la première rose de France. C'était la rose symbolique qui a été reconnue comme telle après les croisades.
D'accord.
Et elle est venue effectivement du Moyen-Orient, du Proche-Orient.
Je crois qu'on a un beau bouquet. Là.
Oui, c'est bien, c'est bien. Et puis c'est botanique pour le coup aussi. Hein. Il y a les deux.
Mais les deux, c'est voilà. Ce que vous aimez. Donc à la fois l'histoire et la botanique, et nous aussi. Merci Jean-Marie, à très bientôt.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Fin de CO2 Mon Amour, les archives nature, podcast sur franceinter.fr, le Twitter Denis Chessou, et demain 13h30, ce sera Paris, oui, mais Paris sauvage. Avec Jérôme Boulet, nous espérons pour vous un bon samedi.